Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdulrahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 18h30 temps universel du lundi 26 août 2019. Au sommaire, formation d'un gouvernement de 66 membres en RDC, 7 mois après l'investiture du président Tshisekedi, réaction dans ce journal. Au Burkina Faso, le verdict du procès du putsch manqué de 2015 sera prononcé le 2 septembre. 84 personnes dont les généraux Diendéré et Bassolé sont sur le banc des accusés. Les policiers centrafricains lancent une grève de 3 jours. Leur syndicat exige l'application de décrets sur le statut de policier. Sommet du G7 à Biarritz en France, l'économie et le climat au centre des débats. Le chef de la diplomatie burkinabé nous parle de la présence africaine à cette rencontre des grandes puissances mondiales.
Les enrochements qui sont favorables à appeler un partenariat international autour du Sahel. Et d'ailleurs, c'est cette idée à rencontrer l'assentiment dans les pays développés, notamment la France et l'Allemagne.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous. Les États-Unis ont salué le nouveau gouvernement de la RDC annoncé tôt ce matin. Les Congolais attendent des ruptures en matière de lutte anticorruption, de respect des droits de l'homme, d'éducation et sur les questions de sécurité. Les précisions avec Irénée Hermann-Numbo.
Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement pour faire avancer le partenariat privilégié USA-RDC pour promouvoir la paix et la prospérité, a tweeté l'ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer. La presse chinoise se fait l'écho des attentes des Congolais après l'annonce des 66 membres du gouvernement. Le peuple d'abord avance le forum des axes. Les nouveaux ministres doivent cesser de gérer les cabinets comme si la République ne se limitait qu'à leur famille, leur clan ou leur patelin, écrit le potentiel. La priorité doit être l'imposition de la sécurité dans l'est du pays pour Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'homme. Éradiquer l'insécurité, la maladie à virus Ebola et la lutte contre la corruption doivent être des priorités, d'après Georges Kapiemba de l'Association pour l'accès à la justice. Les Congolais attendent également ce qui sera fait d'une promesse de campagne de Félix Tshisekedi sur la gratuité de l'enseignement primaire, alors que la rentrée scolaire est pour le 2 septembre.
Au Burkina Faso, le verdict du procès du putsch manqué de 2015 sera prononcé le mois prochain, ce qu'a annoncé le tribunal militaire de Ouagadougou. 84 accusés, dont 2 généraux, comparaissent depuis 18 mois. John Lyndon.
Le jugement sera rendu le 2 septembre, a déclaré le président du tribunal, Seydou Ouédraogo. Il a procédé à la lecture des questions visant à savoir si le général Gilbert Diendéré, un des cerveaux présumés du coup d'État, et les co-accusés sont coupables pour chacun des cas d'attentat à la sûreté de l'État, responsables des morts lors du putsch, de coups et blessures volontaires, des destructions de biens et des dégradations aggravées de biens ou de trahison. Les juges militaires et assesseurs devront dire si tel accusé est coupable ou non et s'il existe des circonstances atténuantes ou aggravantes. Maître Dieudonné Bongunku, l'un des avocats du général Diendéré, a souhaité la suppression du nom de son client, estimant que cette mention tend à incriminer davantage certains prévenus. Le parquet a requis la prison à vie contre les généraux Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du putsch du 16 septembre 2015, qui avait fait 14 morts et 270 blessés. Des accusations que tous les deux rejettent. Leurs avocats ont plaidé en faveur de leur acquittement.
Le Front populaire ivoirien refuse de siéger au sein de la nouvelle commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, estimant qu'elle n'offre pas de garantie d'impartialité. Nous avons été sollicités par le gouvernement pour désigner un représentant à la commission électorale indépendante. Nous avons répondu que nous ne nous sentons pas concernés, a affirmé Pascal Afingesan, le président d'une faction du FPI. La CEI doit organiser la présidentielle de 2020. Au Niger, un front de l'opposition a annoncé avoir saisi la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour créer les conditions d'un dialogue politique en vue d'un processus électoral consensuel en 2020. Depuis 2017, l'opposition refuse de siéger à la commission et conteste le nouveau code électoral élaboré, selon elle, sur une base non consensuelle, sans sa participation et adopté en juin par le Parlement. En RCA, les policiers observent depuis ce matin 3 jours de grève. Ils exigent du gouvernement l'application des effets financiers de leur statut spécial adopté en 2008. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Les checkpoints tenus par des policiers sont déserts ce lundi dans la capitale centrafricaine. Seulement quelques-uns sont occupés par des gendarmes. Plusieurs brigades ont fermé leurs portes ou réduit leurs activités. Cette colère intervient après un préavis adressé la semaine dernière au gouvernement. Pour les mécontents, les autorités ne songent pas à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Mathurin Barnabé Lamba, commissaire principal de police et secrétaire général du syndicat autonome des policiers centrafricains.
Cette grève court du lundi 26 au mercredi 28. C'était le samedi lors de l'AG. La base a décidé que la grève soit observée par toutes les directions et tous les services de police, tant de Bangui que de province. La personne qui se sent qu'il est policier doit observer vraiment cette grève à la loupe.
Nous avons reçu l'instruction de ne pas circuler à certaines heures de la nuit, vu la situation sécuritaire précaire, a indiqué à VOA Afrique un travailleur humanitaire. La direction général de la police se dit préoccupé et demande aux grévistes de surseoir provisoirement à leur mouvement en attendant le retour du chef de l'État absent du pays. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Des dizaines de chauffeurs routiers sont morts en Afrique du Sud depuis mars 2018 dans des attaques visant des étrangers. C'est ce qu'a rapporté Human Rights Watch ce lundi. Selon l'organisation, des groupes de camionneurs sud-africains auraient attaqué des chauffeurs étrangers à coups de pierre avec des couteaux, des fusils et des cocktails Molotov, tuant plus de 200 personnes et forçant des centaines de routiers à quitter leur emploi. L'ONG appelle à une protection renforcée des travailleurs étrangers en Afrique du Sud.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sommet du G7 à Biarritz en France a pris fin ce lundi. Le président français et son homologue américain Donald Trump, hôte du prochain sommet, ont fait face à la presse. Plusieurs sujets ont été abordés, mais c'est le dossier sur le nucléaire iranien qui a plutôt dominé les discussions. Le président Trump s'est dit disposé à rencontrer son vis-à-vis iranien Hassan Rouhani si les conditions sont réunies. On écoute à ce sujet le président français Emmanuel Macron.
D'abord sur l'Iran. Nous avons longuement parlé de ce sujet tout à l'heure ensemble avec le président Trump. Nous avons dit que nous partageons pleinement deux objectifs, faire en sorte que l'Iran ne puisse jamais se doter de l'arme nucléaire, favoriser la paix et la stabilité dans la région. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je veux ici vraiment en tout cas remercier d'une part le président Trump, parce que dès la première discussion que nous avons eue samedi midi, il a été très clair sur les objectifs qui étaient les siens et sa volonté d'essayer de trouver un accord. Je pense que tout n'est pas réglé, il faut être très prudent, extrêmement humble dans ce moment-là. Mais il me semble que d'abord, nous avons su à 7 dire clairement ce que nous recherchons tous ensemble. Unité, clarté, apaisement. On a pu obtenir un message positif sur les intentions, l'acceptabilité d'une rencontre, du côté américain comme du côté iranien, avec beaucoup de prudence à ce stade. Mais avec le fait que, de part et d'autre, si une rencontre est utile, dans le bon format, au bon moment, ils y sont prêts.
Voilà, Emmanuel Macron un peu plus tôt aujourd'hui. Et nous reviendrons en partie magazine sur l'Afrique et le G7 avec Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères. 1451 migrants ont été secourus depuis janvier en tentant de traverser la Manche, soit le double du nombre de personnes sauvées sur l'ensemble de l'année 2018, selon un bilan diffusé ce lundi par les autorités françaises. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, doit évoquer dans les jours à venir, avec son homologue français, la lutte contre les traversées clandestines de la Manche. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé ce lundi la construction de centaines de nouvelles habitations dans une colonie juive endeuillée par une attaque vendredi en Cisjordanie. L'explosion d'une bombe dans un réservoir d'eau servant de piscine tout près de la colonie de Dolev, au nord-ouest de Ramallah, a tué une jeune israélienne de 17 ans et blessé son père et son frère. Situation toujours tendue au Cachemire indien, une foule en colère, qui a tué le chauffeur d'un camion pris pour un véhicule militaire. Cet incident meurtrier est intervenu au moment où le territoire rentre dans sa quatrième semaine de bouclage après la révocation début août par New Delhi de son statut d'autonomie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Le Kenya a exporté ses premiers barils de pétrole provenant de la région du Turkana dans le nord-ouest. Il s'agit de 200 000 barils achetés par la société chinoise Chem China pour 1,2 million de dollars et destinés à la Malaisie. Selon l'accord sur le partage, 75% des revenus pétroliers iront au gouvernement kényan, 20% au comté du Turkana et 5% aux communautés locales. Le Kenya ambitionne de transporter environ 100 000 barils par jour dans les années à venir. L'Afrique du Sud a saisi un Airbus de la compagnie nationale Air Tanzania pour des impayés de 33 millions de dollars réclamés par un fermier dont les terres ont été nationalisées dans les années 80. Le propriétaire terrien, un Tanzanien, avait obtenu des compensations de 36 millions, mais le gouvernement ne lui a versé que 20 millions. Avec les intérêts de retard accumulés, les 16 millions manquants se sont transformés au fil des années en 33 millions de dollars. L'appareil saisi est estimé à environ 90 millions de dollars. Pour finir cette minute éco, Maroc Télécom, le plus grand opérateur de télécommunications au Maroc, a signé un contrat de 1 milliard de dollars avec le gouvernement marocain pour développer une infrastructure de télécommunications au cours des trois prochaines années. L'accord porte sur le haut débit mobile. L'entreprise totalise 63 millions d'utilisateurs dans plusieurs pays africains.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Les Jeux africains se poursuivent au Maroc.
Oui, en football, les affiches des demi-finales sont connues. En athlétisme, les différentes épreuves ont démarré aujourd'hui. Les Ivoiriens Marie-Josée Talou chez les dames et Arthur Cissé chez les hommes sont en pôle position. On fait le point avec Kader Traoré sur place à Rabat.
L'athlétisme est rentré en lice lundi matin au stade Moulay Abdallah. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou et la Nigériane Blessing Okagbare ont annoncé la couleur lors des premières séries des éliminatoires 100 mètres dames.
C'est juste la qualification, donc faut qu'on relance, hein, pas forcer. Juste la mise en action et puis le coach a dit de gérer, donc faut pas se mettre le stress. Le plus important, c'est de faire la finale après.
Les derniers matchs de poule au niveau du football se sont joués le week-end écoulé à Rabat et El Mansouria. Chez les hommes, le Sénégal, le Mali, le Nigeria et le Burkina Faso se sont qualifiés pour les demi-finales. Les Italiens n'ont pas fait dans la dentelle face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, battu 4-0. Pour le coach burkinabé Oscar Barrow, son équipe a joué sur ses vraies valeurs, ce qui a permis de dominer les Sud-Africains.
L'entrée de jeu, c'était pas donné. Elle a essayé de nous bousculer, mais nous sommes restés sur nos principes. L'équipe que nous allons rencontrer, nous allons la jouer avec notre état d'esprit que nous avons actuellement et nous allons nous préparer en conséquence et puis aborder les demi-finales.
En demi-finale donc, le Burkina Faso, premier du groupe A, croisera le Sénégal, deuxième du groupe B. Dans l'autre demi, le Mali sera face au Nigeria. En cyclisme, ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés dans la course contre la montre. Ryan Gibson chez les hommes et Ashley Pazio chez les dames sont les médaillés d'or. Au tableau des médailles, l'Égypte est toujours en tête avec 85 médailles, dont 27 en or. L'Afrique du Sud arrive en deuxième position avec 55 médailles. Et le Maroc ferme le podium avec 41 médailles. Kader Traoré, à Rabat, pour VOA Afrique.
Le week-end a aussi été marqué par les coupes africaines des clubs.
C'était les matchs retour des tours préliminaires. En Ligue des Champions, les Ghanéens d'Asante Kotoko ont renversé les Nigériens de Kano Pilars 2-0. Au tour suivant, ils affronteront les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, tombeurs des Guinéens d'Afia de Conakry. Le second représentant guinéen, le Oroya, s'est offert le stade malien 1-0 à domicile après le nul 1-1 à l'aller. Les Togolais de l'ASCK, après leur nul à Cotonou contre les Buffles du Bourgou, Enfin, l'essentiel à domicile 1-0. Ils affronteront les Congolais de l'AS Vita Club, victorieux des Camerounais de l'USM de Loum. Le champion burkinabé Raimou FC, après sa courte victoire 1-0 à Ouagadougou, face à Enimba, a coulé à Aba 5-0. Grosse performance pour les Tchadiens d'Elect Sport qui passent un tour pour la première fois de leur histoire en battant les Gabonais d'AO CMS.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les réactions à Kinshasa après la publication tôt ce matin du premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Si dans l'opposition, on est pessimiste quant aux chances de réussite de cette équipe, les activistes des droits de l'homme se sont, eux, félicités de l'exclusion de personnalités auteurs des violations des droits de l'homme. Quant à la population, elle attend désormais ce nouveau gouvernement à l'œuvre. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Avec 66 personnes, le nouveau gouvernement congolais est loin de faire l'unanimité, surtout à l'opposition qui ne compte aucun de ses membres dans l'équipe de Sylvestre Ilunga. Tout en saluant la présence des femmes dans cette équipe, Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, parti membre de la coalition Lamuka, craint dans ce gouvernement l'influence négative du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila.
D'avoir un gouvernement contesté par la majorité de la population, le peuple a voté pour la rupture. Maintenant, nous allons vivre une continuité, étant donné que c'est le FCC qui a la majorité et qui a présenté même un premier ministre. Et le programme sera présenté par le premier ministre issu du FCC. Comment est-ce que la population va s'en sortir? En tant que femme politique, je voudrais saluer la présence des femmes. Je voudrais qu'elles travaillent en faisant la différence et la bonne gouvernance, parce qu'elles vont travailler dans un environnement très difficile.
Au niveau de la société civile, l'Association congolaise pour l'accès à la justice recommande au premier gouvernement de Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption et salue l'absence en son sein des personnalités sous sanctions internationales. Maître Georges Kapiamba.
Nous félicitons les hommes et les femmes qui sont nommés dans les gouvernements Ilunga et Ilunkamba, mais nous attirons leur attention sur le fait qu'ils doivent travailler exclusivement pour la réalisation du bien commun, qui doit passer par la lutte efficace et public contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite. Nous nous félicitons aussi le fait que le président de la République et le premier ministre aient écarté toutes les figures qui sont impliquées dans des violations graves des droits de l'homme et qui sont sous les sanctions internationales.
La représentativité féminine était l'un des enjeux de ce gouvernement. Rose Mutombo est la présidente du cadre de concertation de la femme congolaise.
Pour nous, le minimum c'était 30%, on est arrivé à 17%. On doit continuer nos plaidoyers. Mais ce qui nous réjouit plus, c'est la parole que le président nous avait donnée la dernière fois. Il nous avait dit que je mettrais des femmes à des postes souvent occupés par les hommes. Aujourd'hui, on a les affaires étrangères, on a l'économie et on a le plan. Les femmes dirigent ces ministères-là. Là, c'est une avancée. Mais par rapport au pourcentage, la lutte continue.
Dans les rues de Kinshasa, on attend désormais que le nouveau gouvernement se mette au travail.
Nous félicitons de la patience et nous attendons maintenant le travail, la concrétisation surtout de la politique et du chef de l'État.
On a attendu depuis près de 7 mois. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir des gens qui vont répondre aux aspirations de la population congolaise. Ce ne sont pas des gens qui viennent juste pour s'enrichir.
Nous, on a beaucoup attendu le gouvernement. Nous, nous sommes dans la joie. Nous attendons maintenant le gouvernement responsable faire des travaux sur le terrain.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Permettre aux populations de faire confiance en leur police est l'une des priorités de l'État de Côte d'Ivoire, d'où l'initiation de la police de proximité. Les relations entre les policiers et les populations civiles en état des lieux avec Aïcha Gara, la correspondante de La Voix de l'Amérique à Boaké.
Non, pour le moment, il n'y a pas confiance à la police.
Ce manque de confiance s'expliquerait par un prétendu laxisme constaté de la police face à des situations d'insécurité, comme le dit M. Dembélé Ibrahim dans ses propos.
Bon, alors la population n'est pas en sécurité. Il y a trop de braquages. Braquage par-ci, braquage par-là. Il n'y a pas d'enquête. On ne sait pas même pas ce qui se passe.
Aussi, en cas de difficulté, avoir recours à la police laisse par moments un arrière-goût amer à certaines personnes. Cet homme a préféré garder l'anonymat.
Police, même quand vous êtes ensemble comme ça, là, forcé, s'il y a un petit problème, c'est lui-même qui va me faire même en bas de toi. Aujourd'hui, même si tu as un problème aujourd'hui, là, si tu n'as pas quelqu'un derrière toi là aussi, tu sais que tu vas aller dedans.
En plus, la corruption dont fait preuve la police de Côte d'Ivoire n'est pas du tout rassurante pour sa population. Cet intervenant a préféré lui aussi garder l'anonymat.
La police doit mettre les véhicules ou bien des engins en règle. Mais ici en Côte d'Ivoire, on voit que c'est le contraire. Tu peux donner la pièce, mais si tes pièces ne sont pas à jour, si tu mets quelque chose comme de l'argent, et ils prennent l'argent et ils n'arrivent pas à contrôler encore le papier.
D'où la nécessité pour l'État de mettre en place la police de proximité afin de créer un climat de confiance et de fraternité entre les policiers et les civils. La définition de cette police nous est donnée ici par M. Mobio Diangos Maxime, préfet de police de la région du Béké à Boaké.
Pour établir la confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut envoyer la police vers la population et la population vers la police. Voici le sens de la doctrine de la police de proximité.
La mise en place de cette police de proximité se fera en trois étapes, selon M. Kouadio Balé-Henri, lieutenant colonel, commandant adjoint à la 3e Légion de gendarmerie mobile de Boaké.
Pour mettre en œuvre cette doctrine de police de proximité, nous avons eu trois piliers. Le premier pilier, c'est la formation et la sensibilisation. Le deuxième pilier, c'est la sectorisation, c'est-à-dire que les différents quartiers, les communes seront divisées en plusieurs secteurs. Et dans ces secteurs-là, de façon constante, vous aurez des gendarmes qui seront constamment avec vous pour savoir quelles sont les attentes de la sécurité dans ces zones d'action. Et le troisième pilier, échanger sur l'évolution de la sécurité dans les différents secteurs. Mais je crois que d'ici un an, deux ans, Inch'Allah, nous aurons une société à Boaké où il fera bon vivre. C'est notre espoir.
Il faut préciser que ce projet est déjà effectif dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et tient à s'étendre sur tout le territoire national. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a récemment demandé à la Banque centrale de priver des devises aux importateurs de produits alimentaires, une mesure qui ne semble pas résoudre pour le moment l'autosuffisance alimentaire du Nigeria, comme le pensent les autorités. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Pour la présidence, l'interdiction de ne pas fournir les devises aux investisseurs pour l'importation de produits alimentaires fait suite à une amélioration constante de la production agricole locale. L'agriculteur Emmanuel Eto se félicite de la décision du président nigérian, mais estime que le gouvernement devait d'abord initier un temps de préparation.
C'est une bonne décision, mais on devait nous accorder le temps pour nous préparer, pour combler la demande locale afin d'éviter une crise sur le marché. En d'autres termes, si on le savait depuis quelques mois, voire même une année, au lieu de diminuer nos productions cette année, on allait plutôt augmenter.
Ce n'est pas la première fois que le président Buhari exprime son intention de limiter l'accès aux devises pour l'importation de produits. Sont concernés notamment les produits alimentaires de première nécessité comme le riz, le lait et le sucre. La mesure s'inscrit dans la continuité du protectionnisme prôné par le président Buhari depuis son élection à la tête du Nigeria en 2015. Il avait promis d'accélérer l'autosuffisance alimentaire et la diversification de l'économie. Mais on craint surtout le marché noir. Chukwu Ode est un importateur de riz.
Cela va affecter tout le monde, pas seulement moi. Vous savez, au marché local, si vous achetez en gros, à un prix élevé, vous allez aussi vendre cher à vos clients. Parce que beaucoup vont se battre pour importer et après, ils vont nous appeler pour acheter avec eux.
Ces inquiétudes sont partagées par beaucoup de Nigériens, comme l'économiste Nozo Obukili à Business Day.
Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Nous avons un pourcentage élevé de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et ces gens dépensent en grande partie leurs ressources sous la nourriture. Donc, si vous empêchez l'importation des produits alimentaires à travers le contrôle des devises, cela va provoquer la flambée du prix de façon significative. La simple raison est que jusqu'aujourd'hui, il y a une différence entre la consommation et la production locale qui doit être comblée par l'importation.
Au premier trimestre de cette année, le Nigeria a importé plus de 600 millions de dollars en produits agricoles. Lors de son premier mandat, le président nigérien avait également imposé des contrôles sur les importations de riz. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le sommet du G7 à Biarritz en France a pris fin ce lundi. Lors de ce sommet du G7, le président français Emmanuel Macron et les dirigeants du G7 ont approuvé une enveloppe de 251 millions de dollars pour soutenir une initiative de la Banque africaine de développement visant à soutenir les femmes chefs d'entreprise sur le continent. Pour en parler, John Lyndon s'est entretenu avec Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui évoque également la question du G5 Sahel.
Et comme vous savez, la Banque africaine de développement est une banque qui concerne les États africains, avec chaque État africain comme partenaire et actionnaire, mais également avec ce qu'on appelle les actionnaires non régionaux. Donc, la banque avait besoin d'une recapitalisation et surtout d'une ligne de crédit pour des financements assez précis concernant les femmes. Et aujourd'hui, vous savez, le poids des femmes dans l'économie africaine, et vous savez, la femme dans la plupart des pays, c'est la moitié du pays. Et donc, les exclus de l'économie, ce serait donc comme si on tournait au ralenti. Et au contraire, les intégrer, ce serait donc booster l'économie donc de nos États, bien que la femme est partout, en appui non seulement à l'homme, souvent, dans les milieux traditionnels, mais se débrouillant elle-même aussi pour réussir dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du travail de la terre, dans le domaine de l'artisanat, ainsi de suite.
Tout à
donc
fait.
C'est important et on est heureux de savoir qu'il y a cette possibilité-là aujourd'hui.
Un secteur qui manque aussi cruellement de financement, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. Le G5 Sahel continue de chercher des fonds. Est-ce que le G7 peut aider à ce niveau-là aussi?
Et la position des chefs d'État du G5 Sahel, c'est qu'il y a un engagement assez fort et conséquent des grands pays, des pays développés donc en faveur donc de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Est-ce qu'on se dit que la sécurité du Sahel, c'est la sécurité du monde, c'est la sécurité de tous les continents, et donc ça ne devrait pas être une affaire des seuls Sahéliens qui ne peuvent pas à eux seuls venir à bout du terrorisme, parce que partout où on a constaté que le terrorisme sévichait, aucun État, aucune région n'a réussi à s'en sortir d'elle-même. On a vu les coalitions qui se sont mises en place en Syrie et autres pour venir à bout donc du terrorisme. Et l'idée des chefs d'État, des cinq chefs d'État africains, c'est qu'on puisse mettre en place quelque chose de ce genre. Et c'est ce que le président en exercice du G5, le président Rochman Christian Kabore, a appelé un partenariat international autour du Sahel. Et d'ailleurs, cette idée a rencontré l'assentiment donc des pays développés, notamment la France et l'Allemagne.
C'était le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Barry qui se trouve dans la capitale japonaise où s'ouvre demain la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, à la console Aiden Outkou, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.